Éblouis par tant d'inventions et si merveilleuses, les gens de Macondo ne savaient pas par où commencer à s'étonner. Ils passaient des nuits blanches à contempler les pâles ampoules alimentées par un groupe électrogène qu'avait rapporté Aureliano le Triste du second voyage effectué par le train, et à l'obsédant teuf-teuf auquel on ne s'habitua qu'à la longue, péniblement. Ils furent indignés par les vivantes images que le riche commerçant qu'était devenu Don Bruno Crespi projetait dans le théâtre au guichet en gueule de lion à cause d'un personnage mort et enterré dans certains films, sur le malheur duquel on versa des larmes amères et qui reparut bien vivant et métamorphosé en arabe dans le film suivant. Le public, qui payait 2 centavos pour partager les retours de fortune des personnages, ne put supporter cette inqualifiable moquerie et brisa tous les sièges. Le maire, cédant aux instances de Don Bruno Crespi, dut faire expliquer par l'annonceur public que le cinéma n'était qu'une machine à illusion, laquelle ne méritait pas ces débordements passionnels du public. À la suite de cette décevante explication, beaucoup estimèrent qu'ils avaient été victimes d'une nouvelle et spectaculaire affaire de gitans, si bien qu'ils choisirent de ne plus remettre les pieds au cinéma, considérant qu'ils avaient assez de leur propre peine pour aller encore pleurer sur les malheurs d'êtres imaginaires. Il se produisit quelque chose d'analogue avec les phonographes à cylindres apportés par les gays matrones de France en remplacement des vieilles orgues de barbarie et qui, pendant un certain temps, portèrent si gravement préjudice à l'orchestre de musiciens. Au début, la curiosité multiplia la clientèle du quartier réservé. Et l'on sut même que de très respectables dames se déguisaient en gens du peuple pour aller voir de plus près cette nouveauté du phonographe. Mais les gens l'examinèrent tant et si bien et de si près qu'ils en arrivèrent très vite à la conclusion qu'il ne s'agissait pas de moulins à sortilège, comme tout le monde pensait, et que l'affirmaient les matrones, mais d'une vulgaire mécanique qui ne pouvait se comparer avec quelque chose d'aussi émouvant, d'aussi humain, d'aussi chargé de vérité quotidienne qu'un orchestre de musiciens. Cette désillusion fut si profonde qu'à l'époque où l'usage des phonographes se répandit dans le peuple, au point qu'on en rencontra dans chaque maison, on ne put se résoudre à les considérer comme des objets servant au divertissement des adultes, mais tout juste bon à être démantibulé par les enfants. En revanche, le jour où quelqu'un du village eut l'occasion de vérifier la réalité palpable du téléphone installé dans la gare du chemin de fer, et bien qu'on le prît à cause de la manivelle pour une version rudimentaire du phonographe, même les plus incrédules se trouvèrent déconcertés. C'était comme si Dieu avait résolu de mettre à l'épreuve leur faculté de s'étonner et voulait maintenir les habitants de Macondo dans ce perpétuel va-et-vient entre le plaisir et le désenchantement, le doute et la révélation, tant et si bien qu'à la limite, nul ne savait déjà plus de science certaine où commençait et où finissait la réalité. Ces vérités et ces illusions mêlées faisaient un tel salmigondi que le spectre de José Arcadio Buendía sous le châtaignier fut pris de convulsions d'impatience et se trouva contraint d'arpenter la maison même en plein jour. Dès lors que le chemin de fer fut inauguré officiellement, qu'il commença d'arriver régulièrement tous les mercredis à 11h, et qu'on eut édifié une baraque de planches servant de gare avec bureau, téléphone et guichet pour vendre les billets, on vit les rues de Macondo sillonnées par des hommes et des femmes qui feignaient de se comporter communément, comme les gens ordinaires, mais qui en réalité avaient l'air de gens de cirque. Ces équilibristes du petit commerce ambulant, qui avec la même volubilité vous proposaient une marmite siffleuse ou un régime de vie pour le salut de l'âme au 7e jour, n'avaient rien de bon à attendre d'un village déjà échaudé par l'expérience des gitans. Mais entre ceux qui se laissaient persuader de guerre lasse et les perpétuels naïfs, ils se faisaient des bénéfices considérables. Un mercredi comme les autres, parmi tous ces personnages de battleurs en culottes de cheval et ouzo, avec leurs chapeaux de liège, leurs lunettes à monture d'acier, leurs yeux topazes et leurs peaux de chapon fin, débarqua à Macondo et vint déjeuner à la maison le souriant et replet Mr. Herbert. À table, nul ne le remarqua tant que ne fut pas entamé le premier régime de bananes. Aureliano le second était tombé sur lui par hasard. L'homme protestait dans un espagnol laborieux parce qu'il ne restait plus une chambre libre à l'hôtel de Jacob et, comme il le faisait souvent avec nombre d'étrangers, Aureliano l'avait emmené à la maison. Il faisait commerce de ballons captifs qu'il avait colportés dans une foule de pays avec de très substantiels profits, mais il n'avait convaincu personne à Macondo de s'élever dans les airs. Car on considérait cette invention comme une régression par rapport au tapis volant des gitans qu'on avait déjà eu l'occasion de voir et d'essayer. Et il repartait donc par le prochain train. Lorsque l'on servit à table, le régime de bananes tigrées qu'on suspendait parfois dans la salle à manger à l'heure du déjeuner, il détacha le premier fruit sans grand enthousiasme. Mais tout en parlant, il continua à manger, savourant, mastiquant, avec une distraction d'intellectuel plutôt que l'air de se régaler du gros mangeur. Puis, venu à bout du premier régime, il supplia qu'on lui en apportât un second. Il sortit alors de la boîte à outils qui ne le quittait jamais un petit étui contenant des instruments d'optique. Avec l'attention perplexe d'un courtier en diamant, il examina scrupuleusement une banane, la sectionnant avec un bistouri spécial, pesant chacun des morceaux sur un trébuchet de pharmacien et calculant leur diamètre avec une jauge d'armurier. Puis, il sortit de la boîte une série d'instruments avec lesquels il mesura la température, le degré hygrométrique de l'atmosphère et l'intensité de la lumière. Tout le monde était si intrigué par cette cérémonie que personne ne put manger tranquillement, attendant que Mr. Herbert finît par rendre quelques jugements révélateurs, mais il ne dit rien qui permît d'avoir même une légère idée de ses intentions. Dans les jours qui suivirent, on le vit muni d'un filet et d'un petit panier, chasser les papillons aux alentours du village. Le mercredi débarqua un groupe d'ingénieurs, d'agronomes, d'hydrologues, de topographes et d'arpenteurs qui passèrent plusieurs semaines à explorer les mêmes lieux que parcourait Mr. Herbert à chasser les papillons. Plus tard, arriva Mr. Jack Brown dans un wagon supplémentaire accroché en queue du train jaune et tout plaqué d'argent, avec des fauteuils couverts de velours épiscopal et une verrière bleutée en guise de toit. Dans ce wagon spécial arrivèrent également, voltant autour de Mr. Brown, ces avocats pleins d'emphase, tous de noir vêtus, qui suivaient autrefois le colonel Aureliano Buendia dans ses moindres déplacements, ce qui donna à penser aux gens que ces agronomes, hydrologues, topographes et arpenteurs, ainsi que Mr. Herbert avec ses ballons captifs et ses papillons multicolores, et Mr. Brown avec son mausolée roulant et ses féroces bergers allemands, avaient tous quelque chose à voir avec la guerre. Néanmoins, on n'eut pas le temps de s'attarder beaucoup sur cette pensée, car à peine les habitants de Macondo eurent-ils commencé à se demander, méfiant, ce que diable il était en train de leur advenir, que leur village s'était déjà transformé en un campement de bicoques en bois recouvertes de zinc, peuplé d'étrangers qui arrivaient en foule par le train, non seulement sur les sièges et les plateformes, mais jusque sur le toit des wagons. Les Amerlocs, qui firent venir par la suite leurs langoureuses épouses vêtues de toilettes en mousseline et de grands chapeaux de gaz, constituèrent un village séparé de l'autre côté de la ligne de chemin de fer, avec des rues bordées de palmiers, des maisons aux fenêtres grillagées, avec des petites tables blanches sur les terrasses et des ventilateurs en forme de croix suspendus au plafond, et de grandes pelouses bleues pleines de cailles et de pans. Tout le secteur, comme un gigantesque poulailler, était clôturé par un grillage électrifié, qui pendant les mois plus frais d'été était tout noir d'hirondelles brûlées vives au point du jour. Nul ne savait encore ce que ces gens étaient venus chercher, ou si ce n'était rien de plus en vérité que des philanthropes. Mais ils avaient déjà provoqué un énorme chamboulement, beaucoup plus perturbateur que celui qu'avaient créé jadis les gitans, et à la fois moins passager et moins compréhensible. Dotés de moyens qui étaient autrefois réservés à la divine providence, ils modifièrent le régime des pluies, précipitèrent le cycle des récoltes, firent sortir la rivière du lit qu'elle occupait depuis toujours et la transportèrent avec ses pierres blanches et ses courants gelés jusqu'à l'autre bout du village, derrière le cimetière. C'est à cette occasion qu'ils édifièrent une forteresse de béton sur la tombe délavée de José Arcadio, afin que l'odeur de poudre du cadavre n'alla pas contaminer les eaux. Pour les étrangers qui arrivaient sans amour, ils transformèrent la rue des caressantes matrones de France en un village encore plus étendu que l'autre, et, par un glorieux mercredi, ils firent venir tout un convoi d'inimaginables putains, femelles babyloniennes rompues à des procédés immémoriaux, et pourvues de toutes sortes d'onguents et accessoires pour stimuler les désarmés, dégourdir les timides, assouvir les voraces, exalter les modestes, corriger les amateurs de parties carrées, aussi bien que les solitaires. La rue aux Turcs, enrichie par les lumineux magasins d'épices qui prirent la place des vieux bazars aux couleurs criardes, s'emplissait durant la nuit du samedi du bourdonnement de la foule d'aventuriers qui se bousculaient entre les tables de jeu, les stands de tir à blanc, la ruelle où l'on devinait l'avenir et interprétait les rêves, et les tables chargées de fritures et de boissons qu'on retrouvait le dimanche matin, renversées pêle-mêle entre des corps étendus qui étaient parfois ceux d'ivrognes béats et presque toujours ceux de badauds abattus par les coups de feu, les coups de poing, les coups de couteau et les coups de bouteille de quelques querelles. Ce fut une invasion si tumultueuse et intempestive que les premiers temps, il fut impossible de mettre le nez dehors, à cause des meubles et des malles qui obstruaient la rue, de l'incessant va-et-vient des pièces de menuiserie charriées par ceux qui se préparaient, sans demander l'autorisation à personne, à planter leur bicoque sur n'importe quel terrain vague, et du scandaleux spectacle des couples qui suspendaient leur hamac entre les amandiers et faisaient l'amour sous la toile en plein jour et à la vue de tous. Le seul havre de tranquillité fut celui que ménagèrent les paisibles noirs des Antilles, dessinant une rue en retrait avec leurs maisons de bois sur pilotis, devant lesquelles ils s'asseyaient en fin d'après-midi pour chanter des hymnes mélancoliques dans leur confus et gazouillant patois. Il s'opéra tant de changements en si peu de temps que 8 mois après la visite de Mr. Herbert, les anciens habitants de Macondo devaient se lever de bon matin pour reconnaître leur propre village. Regardez les ennuis que nous nous sommes attirés, rien que d'avoir invité un amerloque à manger des bananes, avait alors coutume de dire le colonel Aureliano Buendia. Aureliano le second, par contre, ne se sentait plus de joie devant pareille avalanche d'étrangers. D'un seul coup, la maison se remplit d'hôtes inconnus, d'imbattables noceurs de classe mondiale, et il fallut rajouter les chambres dans le patio, agrandir la salle à manger, remplacer l'ancienne table par une autre ou tenir à 16, et renouveler vaisselle et couverts, et encore dut-on ainsi faire plusieurs services pour le déjeuner. Fernanda fut bien obligée de ravaler ses scrupules et de recevoir comme des rois des invités représentant le comble de la dépravation, qui mettaient de la boue partout sous la véranda avec leurs bottes, urinaient dans le jardin, étendaient leurs nattes de joncs tressés n'importe où pour faire la sieste et déblatéraient sans s'arrêter à des susceptibilités de dames ni à des minauderies de messieurs bien élevés. Amaranta fut tellement scandalisée par cette invasion de la populace qu'elle se remit à manger à la cuisine comme au bon vieux temps. Le colonel Aureliano Buendia, persuadé que la majorité de ceux qui venaient le saluer dans son atelier ne le faisaient nullement par sympathie ou par estime, mais poussé par la curiosité pour être admis à voir une relique de l'histoire, un fossile de muséum, préféra s'enfermer et mettre la barre à sa porte, si bien qu'on ne le revit plus qu'en de rares occasions où il alla encore s'asseoir à la porte de la rue. Ursula, en revanche, même à cette époque où elle ne marchait qu'en traînant les pieds et en suivant les murs à tâtons, éprouvait une joie puérile quand approchait l'heure d'arrivée du train. « Il faut mettre à cuire de la viande et du poisson !» ordonnait-elle aux 4 cuisinières qui faisaient vinaigre pour être dans les temps, sous l'imperturbable direction de Sainte-Sophie de la Piété. « Il faut faire de tout !» insistait-elle, « parce qu'on ne sait jamais ce que les étrangers veulent à manger. » Le train arrivait à l'heure la plus chaude de la journée. Au moment de déjeuner, un tumulte de foire faisait trembler toute la maison, et les convives en sueur, qui ne savaient même pas qui étaient leurs amphitryons, accouraient en troupeau pour occuper les meilleures places à table, cependant que les cuisinières entraient en collision avec leurs énormes marmites de soupe, les grands faitouts pleins de viande, les saladiers de légumes et les plateaux de riz, et distribuaient par inépuisable loucheté la limonade en barrique. Il régnait un tel désordre que Fernanda se mettait dans tous ses états à l'idée que beaucoup mangeaient 2 fois. Et il lui arriva à plus d'une reprise de soulager sa bile en déversant des insultes de vraies poissardes sur le convive embarrassé qui lui demandait l'addition. Il s'était écoulé plus d'un an depuis la visite de Mr. Herbert, et la seule chose qu'on savait, c'était que les étrangers avaient l'intention de planter des bananiers dans la région enchantée que José Arcadio Buendia et ses hommes avaient traversée à l'époque où ils cherchaient la route des grandes inventions. 2 autres fils du colonel Aureliano Buendia, avec leur croix de cendre sur le front, débarquèrent eux aussi, propulsés par cette sorte d'éruption volcanique, et justifièrent leur détermination par une phrase qui rendait compte peut-être des raisons de tout un chacun. « Nous sommes venus, dirent-ils, parce que tout le monde vient.